Bon, bah vous avez pris le risque, cher Laurent, de me donner la parole. Hein. Vous savez à quel point les littéraires aiment la prendre et ne pas la rendre ensuite. J'aimerais surtout en profiter pour vous donner quelques impressions sur la genèse de l'IAP, en complément de tout ce que nous avons déjà appris en fait sur son histoire avec les interventions précédentes, et puis grâce au film que Jean Mouette nous a projeté tout à l'heure. Alors quand même, un petit coup de chapeau au passage à toi, Jean, parce que j'ai participé à quelques-unes des interviews, des nombreuses interviews que tu as menées. Je suis vraiment, j'ai vraiment été ébloui par le résultat final. Quand même tirer ce que tu as tiré de plus de 30 heures d'interview, c'est assez formidable. Bon, enfin, ce qui me paraît important, c'est que l'IAP, j'ai eu l'occasion de le dire dans le film, mais bon, voilà, j'ai été un peu coupé, donc je vais me compléter, c'est que l'IAP a vu le jour dans un contexte de réflexion intense autour de la politique de la recherche en France, qui a beaucoup pesé sur sa genèse, sur sa naissance, et puis sur son parcours ultérieur, hein, tout simplement. Ce contexte, c'est celui du Front populaire, tout simplement, hein, qui voit se mettre en place un dispositif de coordination et de soutien à la recherche, à l'initiative du prix Nobel de physique Jean Perrin. Alors, je ne vais pas entrer davantage dans les détails. Tout cela s'est exposé dans l'histoire du CNRS, dont je signale quand même au passage, hein, parce qu'il ne faut pas déconner, la nouvelle édition au format poche qui est en librairie depuis hier. Donc, c'est quand même une petite coïncidence sympa. Et puis, un peu de pub au passage. Jean Perrin apporte un soutien absolument inconditionnel à la création de l'IAP parce qu'il reflète l'organisation qu'il souhaite mettre en place à l'échelle nationale, en fait. Dans son esprit, cette organisation, elle revient à offrir aux recherches nouvelles et également aux travaux situés aux interfaces de plusieurs domaines. Hein. Ici, ça sera l'astronomie et la physique, comme ailleurs, ça a été la chimie et la physique, par exemple. Hein. Un terreau que ces recherches, que ces travaux d'interface ne trouvent pas au sein de l'université, parce que l'université, tout simplement, l'université française, c'est un milieu qui est complètement figé. Je parle en historien, c'est-à-dire on est dans les années 30, hein, je précise quand même ça pour nos collègues universitaires qui sont dans la salle. Tout cela a beaucoup changé évidemment depuis. Mais ce n'est pas allé déjà à l'époque sans résistance. Hein. Lorsque l'IAP voit le jour, le directeur de l'Observatoire de Paris, juste à côté, qui s'appelle Ernest Esclangon, exige tout de suite d'en prendre la tutelle. Alors ces arguments, ils ne sont pas scientifiques, ils sont administratifs, puisqu'il annonce, alors là je cite mes sources, hein, c'est le procès-verbal de la première réunion du comité de direction de l'IAP en 1937. En fait, je m'étais promis de ne pas citer de date aujourd'hui, parce que j'avais bien repéré qu'il y avait un petit hiatus pour vos 75 ans, qui sont en fait 77 ans. Puis finalement, comme Laurent l'a assumé tout à l'heure, je vais donner des dates. Hein. Donc c'est 1937, puisque l'IAP a été créé en 1936 et que nous fêtons en 2013, c'est 75 ans. Voilà. Donc, je cite donc Ernest Esclangon qui dit, à la première réunion du comité de direction de l'IAP, « Des conflits d'autorité entre le directeur de l'observatoire et le directeur de ce laboratoire ne manqueront pas d'éclater si le laboratoire se trouvait placé dans le jardin de l'observatoire sans être sous l'autorité de son directeur. Hein. » En gros, ne marchez pas sur mes plates-bandes. Hein. C'est comme ça qu'on peut dire. Alors, ce sont des conflits assez courants à l'époque. Hein. On en trouve ailleurs et parfois bien plus virulents. Hein. Vous noterez au passage que notre histoire à tous, c'est pas non plus un long fleuve tranquille. Alors je sais que ça peut sembler surprenant aujourd'hui, maintenant que le milieu de la recherche est devenu ce havre de paix et d'amour que nous connaissons tous. Mais à l'époque, ça pouvait être musclé quand même. Hein. Alors à l'inverse, l'argument de Jean Perrin, lui, est scientifique et même beaucoup plus que cela. Hein. L'IAP étant destiné à tous les astronomes, selon lui, il doit le relever d'une structure national, être en somme un bien commun. Un bien commun, c'est une belle expression de Jean Perrin et qui s'inscrit en même temps parfaitement dans le contexte du Front populaire. Alors à ce moment-là, cette structure nationale, elle s'appelle encore la CNRS, la Caisse nationale de la recherche scientifique, et qui deviendra, elle a été créée en 1936, en même temps que, enfin un petit peu avant l'IAP, puis cela deviendra le 19 octobre 1939, le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique qu'on connaît tous aujourd'hui. Alors, un mot peut-être brièvement sur le fonctionnement de l'IAP à l'époque. Il est placé sous la responsabilité d'un secrétaire général, Henri Mineur, hein, on est dans l'amphithéâtre Henri Mineur. Il est piloté par un comité de direction qui laisse rêveur. Rêveur, déjà parce qu'il compte pas moins de 3 prix Nobel, hein, c'est pas mal pour un comité de direction de labo. Jean Perrin, Irène et Frédéric Joliot-Curie, en plus c'est des participants très, très actifs, ils sont là à chaque réunion. Des scientifiques de premier plan, Émile Borel, Pierre Auger, Fernand Holweck, évidemment des représentants des observatoires, Ernest Ernest Esclangon et André Danjon, qui prendra sa succession à l'Observatoire de Paris en 1945, font partie de ce comité de direction. Et puis des membres de cette jeune garde qui va marquer la recherche en France à compter des années 30. Hein, je pense par exemple à Henri Laugier, à Francis Perrin, ou pour la seule astrophysique, les deux Daniels, Daniel Barbier, Daniel Challonge. Alors c'est ce qui rend passionnante la plongée dans l'histoire de l'IAP de cette période, hein, puisqu'on y retrouve en fait tous les éléments qui marquent le paysage national de la recherche scientifique. Les relations entre la recherche et l'enseignement supérieur, hein, vaste question, on n'en est toujours pas trop sorti, enfin aussi plus ou moins quand même, mais bon, elle continue à se poser. La place des grands établissements, la nécessité de trouver un coordinateur national, hein, l'expression est utilisée à l'époque, hein, et on comprend mieux les considérations qui ont conduit à créer le CNRS quand on explore les archives de l'IAP qui sont parfaitement bien conservées au-dessus de nos têtes. Et puis de manière plus factuelle et en même temps plus tragique, le poids du contexte, hein, c'est celui du Front populaire bien sûr pour la création, mais c'est aussi celui des années suivantes, puisque l'IAP a été confrontée dès sa jeunesse à la guerre, où ses chercheurs ont été mobilisés, puis à la défaite et à l'occupation qu'ils ont subie en toute première ligne. Hein. Alors je me contenterai de citer un seul exemple, c'est celui de Fernand Holweck, qui est arrêté boulevard Arago en 1941, puis torturé et assassiné par la Gestapo dans la prison toute proche, ça doit être par là à peu près, j'ai pas le sens de l'attention, de la santé. Alors, en somme, quand on s'intéresse à l'histoire de la recherche, hein, c'est un peu pour ça que vous me payez, monsieur le président du CNRS, étudier la création et les débuts de l'IAP, c'est trouver entre les murs de cet institut le reflet de toute la politique nationale de la science, avec ses débats, avec ses succès, avec ses échecs, parce qu'il ne faut jamais les cacher, les échecs, hein, on en apprend beaucoup, et puis avec ses drames aussi, hein, comme celui qu'a vécu Fernand Holweck, et j'espère que mon enthousiasme pour l'histoire de l'IAP ne m'a pas conduit à être trop long.
Bonsoir. Donc, Laurent m'a demandé de faire un petit bilan des activités de l'IAP. Alors, je ne vais pas faire un bilan des 75 ans. On a eu de très, très belles histoires sur l'histoire, exposées sur l'histoire de l'IAP. Moi, j'ai même appris beaucoup. Donc, je suis vraiment très contente. Je vais juste vous parler modestement et de manière beaucoup plus terre à terre des conclusions, des remarques du comité de visite de l'IAP qui s'est tenu au début de cette année, en janvier, et vous dire un petit peu ce qu'il en est ressorti. Alors, ce comité était composé d'éminents collègues venus de France, mais aussi d'Espagne, d'Angleterre, d'Allemagne, et les thématiques de les spécialités de ces collègues couvraient l'ensemble des thématiques couvertes à l'IAP, abordées à l'IAP. On a vu tout à l'heure en particulier qu'elles étaient fort nombreuses et que le spectre était très large. Vous avez eu une présentation tout à l'heure des activités de l'IAP qui était vraiment très très belge, très très belle, et qui témoigne, je crois, de la grande vitalité du laboratoire dans l'ensemble des domaines. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été reconnu de manière très forte par le comité de visite. Cette immense vitalité, l'excellence des chercheurs. Et l'IAP est sans doute un des laboratoires les plus actifs en France en astrophysique actuellement. L'activité, on en a parlé déjà, ça se mesure par les taux de publication. Alors 200, moi j'avais 300 dans le domaine, dans le rapport d'activité de l'IAP, 300 publications par an pour une soixantaine de chercheurs permanents, et puis à peu près une cinquantaine de non permanents. Donc c'est une très bonne valeur pour notre discipline. Moi, ce qui je trouve intéressant, c'est que ces publications recouvrent vraiment l'ensemble des activités de la maison. C'est pas seulement une équipe ou deux équipes parmi toutes les équipes du labo. Et certaines de ces publications ont été vraiment des premières, ont une très très haute visibilité. Certaines, ça a été mentionné aussi, et sont liées à des surveys. Des catalogues, par exemple, je pense au catalogue de Quasar ou aux planètes extrasolaires. Et ça laisse vraiment une très, très grande legacy, une valeur de legacy très importante pour le futur. Alors, au passage, je m'aperçois que j'ai dit un mot anglais, que Jean, peut-être comme il y a 25 ans, va me faire une remarque sur mon franglais. Mais bon, pendant ma thèse, Jean m'avait fait cette remarque. Mais je n'ai pas trouvé d'autres mots, en fait. L'activité, ça se mesure aussi donc par des indicateurs non quantitatifs, mais qui, je pense, sont importants, comme la réputation du laboratoire et des individus, à la fois au niveau national et aussi au niveau international, et on va en entendre parler tout à l'heure. Je pense que là, l'IAP jouit vraiment d'une très haute réputation sur le domaine international. Un marqueur de cette réputation, c'est le fait que l'Institut accueille énormément de chercheurs étrangers pour des courtes ou longues visites. Et sur ces post-docs, 70% viennent de l'étranger. Donc ça montre quand même une très solide réputation au niveau international. Un autre facteur de visibilité, c'est la capacité des chercheurs, des individus, à décrocher des financements individuels ou collectifs prestigieux, les chaires d'excellence, les ERC, les ANR, les ITN, des prix individuels de chercheurs, énormément de résultats, de succès dans ce sens-là. Et je voudrais aussi mentionner la création récente du LABEX Île-de-France, l'Institut Lagrange Paris, qui sera tourné vers la cosmologie et les hautes énergies et qui va fédérer pendant une dizaine d'années les efforts dans ce domaine-là. Je pense que ça va être un énorme facteur de développement de l'IAP qui va lui permettre de rester vraiment au top de ce qui se fait en sciences dans ce domaine. Je citerai aussi la participation au LABEX ESEP qui est menée par l'Observatoire de Paris autour des exoplanètes. Enfin, la vitalité d'un laboratoire va souvent avec une activité de diffusion de la science, soit au niveau académique, soit au niveau du grand public. Et au niveau académique, les chercheurs de l'IAP nous l'ont montré lors de ce comité de visite, ils sont très largement impliqués dans des enseignements à tous les niveaux, en particulier à l'Université Paris 6, bien sûr, en particulier dans deux écoles doctorales, astrophysique et physique théorique. Et ils sont aussi impliqués de manière très, très vraie, très profonde dans des initiatives destinées au grand public, que ce soit au niveau local à Paris. On a vu des photos dans le métro, la participation aux journées de la science, etc. Les séminaires qui sont vraiment toujours une réussite. Et aussi au niveau européen, et je pense en particulier à l'initiative Hands on Universe. Alors, j'ai beaucoup aimé la présentation tout à l'heure sur l'histoire de l'IAP avec finalement au début, certaines thématiques extrêmement théoriques autour d'Evry Schatzman, une partie aussi dédiée aux instruments, on a vu la caméra de l'allemand, tout ça. Et l'IAP, moi quand je suis arrivée à l'IAP en 85, c'était un institut théorique, il n'y avait quasiment plus d'instrumentation qui se développait un petit peu, mais très peu. Et donc je prenais vraiment l'IAP comme un institut théorique. Et j'ai beaucoup appris justement tout à l'heure sur le passé. En tout cas, vers la fin des années 90, il y a eu ce qui nous semble quand même un tournant, c'est que l'IAP s'est investi dans ce qu'on appelle des grands projets. Et c'était en l'occurrence à ce moment-là le centre de traitement et d'archivage des données d'un instrument grand champ, d'imagerie grand champ, MegaCam, ensuite WIRCam, qui était installé au télescope Canada-France-Hawaï. Et ça a été un franc succès, on peut le dire, Therapix. Ça s'est poursuivi par une implication dans le satellite Planck, dont on a vu quelques résultats. Et ça va se poursuivre maintenant avec la participation à la mission spatiale Euclide, et le leader scientifique d'Euclide est dans la maison. Ces implications au niveau du traitement et de l'analyse des données sont en synergie complète avec les activités des chercheurs, mais aussi avec les compétences des ingénieurs. Ce sont des participations qui sont très très exigeantes. L'expérience de Planck en particulier nous l'a montré. On a vu au début de l'année à quel point il y avait des moments difficiles. Maintenant, c'est plus pareil parce que Planck a commencé à donner tout ce qu'il peut donner. Mais il y a des moments difficiles, des moments ingrats. Il faut parfois s'adapter à des changements de calendrier. Ça peut rendre difficile la vie. En retour, évidemment, des résultats de très très grand impact. Et comme on l'a vu sur Planck, mais on l'a vu aussi sur Therapix. Cette évolution donc était nouvelle par rapport à la culture de la maison telle qu'on l'avait connue depuis quelques décennies, puisque les activités les plus récentes étaient basées sur des observations sur les très grands équipements, la modélisation, la théorie. L'évolution s'est faite avec succès, vraiment, parce qu'elle a été souhaitée et portée par les chercheurs. L'IAP, dans les années à venir, va devoir nous assembler vivre une autre évolution. Ces dernières années ont vu le départ à la retraite ou vers d'autres laboratoires en France ou à l'étranger d'un certain nombre de chercheurs clés et d'ITA, et je dirais même d'un nombre certain. La situation est d'autant plus sensible que les recrutements, que ce soit au CNRS, au corps des astronomes ou universitaires, sont de plus en plus rares. La perte des ITA est particulièrement difficile à gérer quand les laboratoires sont impliqués dans des grands projets. Ça peut vraiment les fragiliser et il convient d'être vigilant là-dessus et je reviendrai dessus dans quelques instants. Le départ massif maintenant de chercheurs dans le domaine, en particulier des exoplanètes et du domaine stellaire, il faut le dire, est assez préoccupant. À l'occasion de son exercice de prospective, l'IAP a choisi, vous avez vu ici tout le spectre, il y a tout l'univers, il y a toute l'histoire de l'univers là-dedans, du plus petit au plus grand dans le domaine de l'astrophysique. L'IAP aurait pu choisir de se concentrer sur ses principales, je dirais en nombre, thématiques, qui sont l'évolution des galaxies, la cosmologie, la physique des hautes énergies, la physique théorique. Et en fait, il a été décidé de ne pas se focaliser là-dessus, mais de garder un spectre large, comme c'est le cas actuellement. Et je crois, le comité de visite était unanime là-dessus, qu'elle le fait avec raison. Maintenant, il faut qu'elle ait les moyens de maintenir cette activité sur un large spectre. Alors, ça ne va pas être facile dans le contexte que j'ai indiqué tout à l'heure. Mais de nouveau, je pense que l'attractivité de la maison et la qualité des chercheurs en place vont être un atout de poids pour réussir. La réussite peut-être du projet ECHO pourrait aider, ou même une participation à Euclide pour les exoplanètes. Je vais terminer ce bref bilan en rapportant quelques recommandations très générales, je ne vais pas tout vous lire, qui avaient été émises par le comité de visite en lien avec ces évolutions. Les trois principales, pour moi, étaient qu'il est nécessaire de garder une masse critique dans les thématiques que l'IAP souhaite développer pendant les années à venir. C'est bien sûr un message pour l'IAP, mais c'est aussi, bien sûr, aussi un message pour les tutelles. Un autre message en direction des tutelles, il concerne les grands projets. Pour accompagner les laboratoires dans les grands projets, un engagement pluriannuel en matière de personnel technique et administratif est indispensable. Le comité à l'unanimité, c'est-à-dire même avec les collègues anglo-saxons, donc j'aurais pu attendre un autre discours, a considéré que la présence d'un nombre plancher de personnel technique et administratif pour accompagner ces projets est cruciale pour maintenir les compétences dans ces projets qui ne durent pas le temps d'un CDD, ils ne durent pas 3 ans, ils durent 10 ans, ils durent 15 ans. Et là, il y a vraiment une prise de conscience à faire et des actions à mener pour pouvoir aider au maximum au suivi de ces projets. Donc c'est pas facile à mettre en place dans le contexte actuel. Ça nécessite un dialogue, je crois, approfondi et fréquent entre les tutelles et le laboratoire. Enfin, les nouveaux types de financement de la recherche ne sont pas sans conséquence sur la vie du laboratoire, tant du point de vue pratique, la gestion des contrats, la gestion du personnel, que du point de vue de la gouvernance et de l'élaboration des priorités scientifiques du laboratoire. Il est apparu au comité, de nouveau même avec nos collègues anglais, qu'une politique de laboratoire n'est possible que si celui-ci dispose d'un soutien de base suffisant. Autrement dit, les financements de grants attribués à des individus n'est pas forcément suffisant et, ou adapté pour maintenir une cohésion et une politique de laboratoire. Et ça, c'est vrai dans tous les laboratoires, qu'ils soient bons, qu'ils soient moyennement bons ou qu'ils soient excellents. C'est vrai partout. Voilà. Pour conclure, je vais rappeler que, on l'a vu tout à l'heure, l'IAP est forte d'un passé très brillant. Elle a des chercheurs excellents, motivés, des personnels techniques et administratifs particulièrement dévoués et compétents. Elle a eu une succession de directeurs top, je dirais. Et c'est vrai. Elle va devoir évoluer au cours des prochaines années, on l'a vu, parce qu'elle s'implique à nouveau dans un grand projet qui risque d'être très lourd, au moins à la mesure de la lourdeur de Planck, si ce n'est plus. Parce que aussi les modes de financement, on l'a vu, de la recherche évoluent, parce que les chercheurs bougent, sont mobiles, ça c'est normal. Et donc elle va devoir s'adapter, mais on a vu finalement, et Laurent tu as commencé avec ça, que l'IAP n'avait cessé d'évoluer au cours du temps. Donc je suis bien tout à fait confiante qu'elle va continuer à évoluer de la meilleure façon. Et voilà, je souhaite à l'IAP un futur tout aussi brillant que son passé, voire plus.
Alors, je vais être un peu plus court dans mes remarques parce que mon français n'est pas parfait. Alors, l'IAP, c'est un grand centre de recherche international, c'est évident. Et je vais essayer de dire pourquoi je sens ça. Mais je veux dire, sur le côté personnel, je suis un visiteur ici souvent. Dans le mandat de les quatre derniers directeurs. J'ai commencé dans l'époque de Jean XII, après Alain Aumont, Bonnefond et maintenant Laurent Figlou. Alors, et chacun de ces directeurs que j'ai connu, essaie à faire les étrangers très bienvenus. Ils ont chacun piloté des grands domaines de recherche, commençant avec la nucléosynthèse, avec Jean XII, après le côté moléculaire de AGN avec Alain Aumont, les lentilles avec Bonnefond et le côté infrarouge, les ondes plus longues avec Laurent. Et en tous ces cas, ils ont devenu une force mondiale. Et pourquoi c'était comme ça? Je pense les étrangers, il y a les visiteurs, il y a les chercheurs postdocs, il y a aussi les permanents. Il y a un grand nombre d'étrangers dans toutes ces catégories, bien sûr. Mais pour les visiteurs, ils sont bienvenus ici pour une période de un an jusqu'à peut-être quelques jours. Et on a réussi à attirer les meilleurs scientifiques étrangers dans le monde. Peut-être parce qu'ils aiment beaucoup Paris, c'est évident. Mais c'est beaucoup plus que ça, parce qu'on est central en Paris, mais c'est un endroit idéal pour exploiter. Et c'était piloté par le directeur et le conseil, évidemment, de l'IAP pour faire bienvenue à tous ces étrangers, à les mélanger dans les activités de l'Institut. On a reçu beaucoup de visiteurs de la Chine, de la Russie, les États-Unis, Angleterre, Japon, etc., l'Inde, etc., etc. Et dans mon cas personnel, quand j'ai commencé ici, nucléosynthèse primordiale dans le domaine de galaxies, c'était un sujet très nouvel pour moi. Et c'était piloté en France par Hubert Reeves, Jean XII et les étudiants, les chercheurs qui étaient avec lui. Et ils ont réussi à exporter tout ça au monde. Et avec des interactions, des collaborations un peu partout. Et Après ça, en mon cas personnel, j'étais un peu divergé sur la formation de la galaxie, le rayonnement du fond, la matière noire, tout ça. Et dans tous ces sujets, l'IAP avait des noms d'excellence qui a réussi à attirer les étrangers et aussi pour les Français, avait reçu aussi dans les laboratoires étrangers. C'est toujours un process équivalent qui a réussi à renforcer la recherche dans les pays. Alors, pourquoi ça marche si bien? Je pense qu'un facteur important, c'est la langue internationale de recherche, c'est anglais. Et ici, parce qu'on a si grand nombre des étrangers, la langue plutôt dans les couloirs, c'est anglais. Et la plupart des séminaires, presque tous, sont en anglais. Et c'est aussi une grande raison pour les étrangers se sentent très bienvenus ici. De temps en temps, il y a des petits problèmes. Je raconte un cas. J'avais un visiteur italien qui est venu ici souvent et chaque jour, autour de midi, il dit à moi en anglais avec son accent fort italien, « I am angry ». Et après, quelques minutes après, « I am very angry ». Et j'ai appris après, et il a dit, I am hungry. Je suis fâché, mais j'ai faim. Et pour un Italien, en anglais, c'est presque la même chose. Mais après, on a pris ça. Bon, ça marchait bien. Il était, voilà. Et en effet, une deuxième chose qui est différente ici de le monde anglo-saxon, qui est intéressant, c'est le déjeuner. Quand je suis arrivé ici au début, j'essaie à voir qu'est-ce qu'on appelle en États-Unis les brown bag seminars. C'est-à-dire un séminaire à l'heure de déjeuner où tout le monde porte un sac à papier avec son déjeuner dedans et on écoute une personne parle et mange en même temps. Et on fait ça tout le temps dans le monde. Ici en Paris, c'est jamais, jamais marché. Et on a appris, moi j'étais converti à le système français, c'est très bon avoir une cantine avec, on peut déjeuner 5 cours pour le déjeuner et ne parler pas du tout de travail dans le déjeuner. Et je pense peut-être que c'est quelque chose qu'on peut imaginer exporter à les autres pays. Voilà. Bon, alors je pense, finalement, je veux dire que l'IAP, à mon avis, c'est un centre international en astrophysique. Peut-être c'est le plus connu et le plus important du monde. Je ne vois pas un autre centre international en astrophysique dans les autres. Il y a toujours un élément étranger dans les autres centres, mais ici, on a vraiment réussi à attirer les meilleures personnes parce qu'on est la bonne ville, peut-être, mais aussi la bonne infrastructure et tout ça, et ça marche très bien. J'espère qu'on va avoir tous les fonds pour continuer ce programme de visiteurs dans l'avenir. C'est la seule source qu'on peut imaginer. Bon.
Merci pour tous ces compliments. Peut-être qu'on peut aussi espérer que la qualité de la cantine s'améliore, ce qui permettra de passer encore plus de temps à déjeuner. Bon, il y a quelque chose. Lorsqu'on a parlé du futur, on parle évidemment des évolutions. Il y a quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est l'évolution du statut de l'IAP, qui était au départ, donc, comme ça a été expliqué, un laboratoire propre du CNRS. Et qui, à partir de 2000, a développé des relations de collaboration et de partenariat avec l'université, puisque nous sommes, l'IAP est devenu UMR, CNRS, UPMC en 2000, et devenu Observatoire des sciences de l'univers de l'Université Pierre-Marie Curie en 2005. Et ce mouvement, qui n'a pas d'ailleurs été un mouvement unique en France, je veux dire, c'est un mouvement général de la recherche française de renforcer les liens avec l'université, s'est passé de manière tout à fait, je pense, remarquable. Et elle s'est faite de manière fructueuse des deux côtés. Je pense qu'on a aussi développé des relations de confiance, de partenariat. On a des bonnes discussions avec les gens de l'université. Les enseignants-chercheurs de l'IAP participent à l'enseignement de la physique à peu près à tous les niveaux. Et je pense que c'est quelque chose qui doit continuer dans le futur. Alors, à partir de 2005, il y a eu aussi un changement brutal avec la création de l'ANR, ce qui a fait transformer un peu la recherche en France, où nous souffrions tous d'un énorme problème qui était l'absence de post-doc dans les laboratoires. Il n'y en avait quasiment aucun moyen de les financer. L'IAP avait réussi, grâce à Alain Aumont, qui avait créé un réseau européen qui permettait d'attirer un certain nombre d'étudiants étrangers au niveau thèse, au niveau postdoctoral. Donc l'IAP était relativement un lieu privilégié de ce point de vue-là, mais la création de l'ANR et la généralisation des contrats offerts par l'ERC a amené une augmentation vraiment quantitative des postdoctorants au niveau de l'Institut. Évidemment, ça contribue à la vitalité d'un institut. Je veux dire, c'est indéniable que lorsqu'on a une dizaine de postdoctorants qui sont des gens extrêmement actifs, extrêmement inventifs, ben, ça contribue à amener des nouvelles idées, à promouvoir un peu justement ce côté international. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer de préserver dans le futur. Évidemment, on ne peut pas prévoir l'avenir. On ne sait pas quel sera l'avenir de l'ANR. Est-ce qu'on parle de diminution des budgets de l'ANR, en tout cas sur les actions non ciblées? Quel sera l'impact que ça aura sur nos recherches? Quelle sera aussi l'évolution des programmes européens dans ce qu'on appelle l'horizon 2020, etc. Donc ce sont des choses qu'il va falloir surveiller. Et comme l'IAP a réussi à le faire depuis sa création, ben, se réadapter au nouveau contexte politique, administratif, et pour redéfinir éventuellement une stratégie pour arriver à garder des moyens suffisants, parce que c'est clair que uniquement si on ne compte que sur les moyens disponibles au niveau national, ben, on aura tout de même quelques difficultés à survivre, à moins que... Enfin, en restant réaliste... Je pense que cette ouverture à l'international et à la collaboration internationale et à la recherche de financement au niveau européen est tout à fait indispensable. L'IAP donc a tout de même maintenant un certain nombre de lignes directrices pour le futur, puisque nous sommes engagés dans le programme Euclide, donc il va être lancé en 2020. Tous ces programmes ont toujours du retard, donc on peut, mais enfin disons officiellement 2020, mais où l'exploitation va durer une dizaine d'années après. Donc il y aura encore en 2030, je pense, des gens qui travailleront sur Euclide, comme il y a encore des gens maintenant qui travaillent sur WMAP, et il y aura des gens qui vont travailler sur Planck, sur les données de Planck, jusque vers 2020 au moins, jusqu'à ce qu'on relance un nouveau satellite du même genre. Anne-Marie avait mentionné le LABEX, Institut Lagrange de Paris, qui lui aussi quelque chose qui est sur le long terme, qui donne un horizon jusqu'en 2019. Et il y a un certain nombre aussi de contrats de recherche, ANR, ERC, qui sont définis aussi sur un terme un peu plus court, mais enfin encore 4-5 ans. Donc on voit qu'on a de toute façon un espace de... pour le relativement figé, qui nous garantit tout de même un minimum de ressources et puis d'activités scientifiques. Et je pense que le gros problème qu'il y aura dans le futur, c'est d'éviter que ces activités qui sont financées, qui ont un développement sur le long terme, ne viennent s'imposer complètement sur les activités de l'IAP au détriment de la créativité, de la réactivité sur des idées nouvelles. Ça serait extrêmement dommageable pour cet institut. La science que l'on fera dans 4 ans, dans 5 ans, ce n'est pas celle qu'on fait aujourd'hui. Et si on perd la possibilité de s'adapter, de réagir, À ce moment-là, je pense que dans 10 ans, l'IAP sera... Il n'y aura plus du tout les mêmes compliments. On aura un comité d'évaluation qui nous expliquera qu'il faut tout changer et repartir à zéro. C'est ça le vrai danger, je pense, pour le futur. Et c'est quelque chose donc, que j'ai discuté avec le futur directeur de l'IAP, donc Francis Bernardo. Il en est bien conscient. Et je pense que c'est quelque chose qu'il tiendra à cœur de veiller au maintien de la pluridisciplinarité et de la capacité d'initiative qui a toujours existé ici et doit être maintenue.
Thank you.